Quel est le pays d'origine du hamburger? Est-ce que c'est les États-Unis, la Grèce, le Portugal ou l'Allemagne?
L'Allemagne.
Et l'Allemagne, c'est une bonne réponse, ouais. Et oui, les Kennibles passent devant. Bravo, bravo, félicitations. Malheureusement, on est pris par le temps, je vais vouloir vous laisser. Je remercie encore une fois mes parrains de mon émission, la cave des Gamelottes, la menuiserie Rusticelli et Mabasi. Merci pour leur soutien. Merci à mes deux équipes du jour, bravo. C'était un très bon match, c'était très tendu. J'espère que ça vous a apprécié, je vous offre la bière juste après pour en débloquer. Juste après, on retrouve Vita et Bella. N'hésitez pas à rester, c'est une très belle émission, je l'aime beaucoup. Tout de suite, Vita et Bella. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du Frost and Quiz pour les demi-finales. À tout de suite, enfin à la prochaine plutôt. Ciao.
L'heure vous est donnée par le garage Balcon du Jura, votre agence Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission La Vita est Bella. On est ensemble de 19h à 20h. Bienvenue. Et avant de passer la parole à Sylvaine pour la présentation de notre invité de ce soir, nous remercions comme d'habitude chaleureusement la laiterie fromagerie de Beaume ainsi que le Daystock Factory Outlet à Orbey ce soir. C'est une excellente soirée où l'on va parler souvenirs et voyages. Salut Sylvain.
Absolument, salut Sylvain. Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs. Bienvenue sur les ondes de Radio Carnaval.
Et oui, ce soir, c'est une invitée qui habite la région. Nous avons le plaisir d'avoir quelques personnes qui viennent aussi de la région. On a été un petit peu large avec Sylvain cette année. On a pris des gens d'ici, d'ailleurs. Enfin bref, on a panaché un petit peu comme d'habitude. Alors, notre invitée de ce soir, c'est un personnage connu de notre région. Plus précisément, qui habite à Cuillery, ça vous donne déjà un indice. Elle a bourlingué une bonne partie de sa jeunesse entre apprentissage, employé de commerce, photographe. Elle a beaucoup voyagé, elle s'est même établie quelques mois aux États-Unis avant de fonder une famille et même ses filles sont nées aux États-Unis. Alors vous tous et toutes qui nous écoutez, vous la connaissez peut-être de vue, de près par le biais de son objectif ou par des créations exposées dans la région, que ce soit au CIMA, au Bunker ou même au-delà, à Nyon. Nous ne pouvons pas faire l'impasse de sa fratrie, de sa sœur Christine, également très proche d'elle, et son regretté frère Alain Margot, alias le Goum. Nous avons le plaisir de partager notre heure avec Sylvie Marco-Mettler. Salut Sylvie.
Salut.
Salut Sylvie.
Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être là.
Comment vas-tu en ce début d'année 2026
Bien, mais bon, avec tout ce qui s'est passé quand même... Un petit peu mitigé. On dira que le début d'année, hein, je crois que pour tout le monde, on était un peu choqué. Oui. Et puis maintenant, ben, avec ce qui se passe dans le monde, mais voilà. Mais autrement, moralement, ça va bien.
Alors, je vais quand même dire que c'est la première fois que mon invité y arrive avec une feuille qu'elle a remplie avant de venir. Et il y a 2 pages A4 à peu près. Parce qu'effectivement, elle a dû se souvenir et noter les dates de tout ce qu'elle avait fait comme voyage.
Bon, c'est peut-être pas très important.
Pour ne pas oublier, pour être sûre de parler de ce qu'elle avait envie de parler. Voilà, donc... Sylvie, bien sûr, ben voilà, t'es une native de Sainte-Croix, donc on va peut-être commencer par parler un petit peu de ta jeunesse. Qu'est-ce que t'as envie de partager avec nous, notamment au niveau de tes souvenirs, des anecdotes que tu as à partager?
Ben voilà, je suis née ici, à Sainte-Croix, de parents très aimants, Nadine et Albert. Et puis j'ai fait toutes mes scolarités ici, donc voilà, l'école au collège de la gare, l'école au collège de la poste. Moi, j'ai pas terminé ma formation à l'école, quoi. J'ai quitté l'école à 15 ans parce que j'étais un petit peu cancre. Et puis mes parents ont préféré me retirer de l'école.
Donc ça veut dire que tu n'as pas eu ton certificat de fin d'études?
Non, je n'ai pas du tout eu mon certificat de fin d'études. Et puis je suis entrée directement en apprentissage chez M. Stöckli, notaire.
Oula, direct du lourd.
Tu sais quoi Sylvie, eh ben, le fait de ne pas avoir fini l'école secondaire, eh ben, c'est déjà un premier point commun qu'on a. Voilà. Mais on s'est bien sortis finalement quand même.
Oui, oui, exactement. Et puis de toute façon, mes parents m'avaient dit, de toute façon tu vas sûrement continuer les études, donc voilà, j'aurai d'autres diplômes, mais... Mais non, j'en pouvais plus. Mais le problème, c'est quand tu redoubles. Quand tu redoubles, tu perds tous tes potes et tout. Tu te retrouves dans une nouvelle classe, tu dois te refaire des amis et tout. Donc j'ai mis les pieds au mur et puis voilà. Quoi.
Donc t'as arrêté plutôt que de redoubler, c'est ça que tu veux dire?
J'ai redoublé et puis...
Ah, t'as redoublé?
Ouais, j'ai redoublé. On était 3.
Zut.
Voilà, ouais. Et puis je suis la seule qui a redoublé. Et puis après, ben voilà... j'ai arrêté un peu plus vite et puis j'ai commencé l'apprentissage. Et puis quoi d'autre? Ben, je me souviens aussi, on peut parler quand même carnaval, hein, les premiers carnavals.
Oui,
ben,
bien
je
sûr.
Pense qu'on l'a fait, hein, en 85.
La 40e, hein,
ouais,
la
40e, ouais.
86, c'était
Ben, si jamais on nous écoute, qu'on nous corrige.
Oui.
Non, mais c'est le 40e cette année, non?
Oui, c'est le 40e.
35 ans de radio et 40 ans de carnaval.
Donc on est en train de se tromper, oui.
Bon, on coupera au montage, c'est pas grave.
Et puis, donc ça c'était. Alors moi je me souviens très très bien, c'était encore dans la salle du stand, le premier carnaval.
Oui, exactement. Ouais.
On est bien d'accord. Mmh. C'était, alors j'ai un souvenir très très précis de cette salle. Puis même à l'époque, moi-même, je me disais, ouais, carnaval, c'est pas fait pour ici et tout. Ben, dis donc, c'est la manifestation qui tient Sainte-Croix. Enfin, une des principales manifestations
qui
tient Sainte-Croix.
Et puis moi, j'ai une anecdote parce que c'est vrai que c'était au stand. Et puis il y avait un petit bar. Il y avait la grande salle et puis il y avait un tout petit bar où il y avait une mini porte. Puis tu accédais dans un bar. Et puis moi, je m'étais fait un déguisement avec une espèce de sagex autour de la taille qui faisait comme une bouée, une énorme bouée. Et puis j'avais des
je n'ose pas imaginer.
Oui, voilà. Et puis bref. Et puis ça faisait un peu comme une table en fait autour de ma taille. Et puis j'arrivais pas à rentrer dans ce bar.
On a dû raboter ta robe.
C'était beaucoup trop large, donc je devais passer un peu de côté. Puis une fois que j'étais dans le bar, en fait, les gens pensaient que c'était une table, donc ils posaient toutes les verres de bière, les verres d'alcool sur mon pourtour de ce déguisement. Donc voilà, je me suis dit non, plus jamais.
T'avais une collerette, en fait, c'est ça que tu cherchais ou bien tout à l'heure? Ton déguisement c'était quoi en fait?
Ça faisait comme une table en fait, mais en sagex, toi, très léger et tout. Avec depuis là, il y avait un tissu qui partait sur mes pieds. Ça faisait un peu conique, tu vois. Et puis dessus, j'avais des bretelles, voilà, qui pour tenir en fait ce sagex, voilà.
Mais ça serait pas toi qui a inventé le manche debout?
Oui, peut-être.
Peut-être, non?
Oui, exactement. Et puis autrement, d'autres anecdotes de Sainte-Croix, bon bah il y en a plein, hein, je veux dire. C'est sûr qu'avec aussi un grand frère comme on a eu avec ma sœur, ben voilà.
Oui, alors je pense qu'il y en a un paquet. Donc on va peut-être parler un petit peu aussi d'Alain. Peut-être pas tout de suite,
pas
parce qu'en fait,
suite.
Moi j'ai envie de te dire que toi aussi, t'as tout un parcours, je dirais, d'artiste
oui,
quand même.
Oui. Hein? Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, c'est même plus que sûr. Donc moi, je t'ai rencontré à Cuilléry, dans ton atelier en bas, où tu as la photographie, où tu fais une spécialité très éphémère, mais absolument passionnante, dont tu vas parler.
Voilà, alors je travaille sur des photographies à la chlorophylle. Donc, ça fait déjà quelques années, en fait, que je fais ça, bien sûr, l'été, hein, parce que la chlorophylle, il n'y en a pas l'hiver. Donc, je suis en pause l'hiver. Mais l'été, je prends des feuilles, des arbres, et puis, en fait, j'expose au soleil. Je fais comme un sandwich avec mes photographies que j'expose au soleil. Et c'est... et en fait, après, tu as la photographie qui est imprimée sur les feuilles. Alors ça marche pas tout le temps, ça marche avec c'est un peu compliqué, je peux pas vraiment dire, il y a certaines feuilles qui marchent mieux que d'autres, des fois il y a trop d'humidité donc les feuilles se collent, voilà. Alors ça c'est un procédé, et l'autre en fait je ramasse des feuilles que je mixe, et puis j'ai comme une pâte, un jus de chlorophylle, et avec ce jus en fait je le pose. Je le dépose en fait sur une feuille que je laisse sécher. Je fais une couche, deux couches, trois couches, quatre couches. Et puis une fois que j'ai mes feuilles qui sont préparées, qui sont vertes, vraiment chlorophylle, je les expose aussi au soleil avec des photographies, avec des négatifs. Et puis voilà, il y a la photo, mais bien sûr en vert. C'est des différents tons de vert. C'est assez particulier, je dirais. Ça sent souvent un peu le foin ou l'épinard ou les plantes. Puis c'est éphémère. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas le fixer. C'est une image qu'on ne peut pas fixer, donc elle va disparaître à la lumière si on la met trop à la lumière. Donc je les conserve bien sûr dans des boîtes. Et puis quand je les montre à des amis, ben voilà. Ou bien je pensais faire peut-être une exposition où elle serait exposée... contre un mur avec peut-être un tissu devant, et puis on devrait lever le tissu pour les regarder si on veut
pour les protéger un peu,
voilà,
hein, quand même.
Exactement. Et puis peut-être ma fille faire les scanner et puis faire des images numériques qui se gardent plus longtemps.
Et sur la durée, puisqu'elles sont éphémères,
alors je dirais que si tu les mets au soleil, je pense qu'après une semaine ou même quelques jours, elles disparaissent, quoi. Ça devient tout jaune pâle. Voilà. Mais j'ai toujours aimé faire de la photographie. Bon, ce qui m'a surtout passionnée, c'est j'adore l'architecture. Donc, j'ai fait pas mal de photos d'architecture à l'époque. Et puis, un petit peu moins maintenant. Et puis, autrement, maintenant, je fais beaucoup plus de photographies artistiques. Donc, justement, bah, c'est photos à la chlorophylle. Il y a aussi des cyanotypes. Mais bon, il y a plus de personnes qui en font. Et puis autrement, je dirais les Polaroids. Moi, j'ai toujours aimé les Polaroids. Donc, mais ça, c'est un peu aussi, c'est devenu d'Alain d'abord, et puis qui m'a transmis le virus. Et puis, voilà, j'ai fait beaucoup de Polaroid et puis je les ai déchiquetés, coupés, décollés, repositionnés sur des autres images, quoi, des autres papiers et tout. Donc, ça, j'aime toujours faire.
Sans être trop technique, mais cette récolte et cette transformation pour la chlorophylle,
oui.
Comment ça se passe ?
Ben, c'est simple, en fait, tu prends, je ne sais pas, par exemple, des épinards. Tu prends un kilo d'épinards et puis tu prends ton mixeur, puis tu mixes avec un petit peu d'alcool à brûler et puis tu te retrouves avec une pâte d'épinards avec un petit peu, comme j'ai mis justement un petit peu d'alcool, donc voilà, une espèce de masse d'épinards broyés, quoi, vraiment mixés. Et puis là, je le mets dans un tissu, et puis je presse, et puis je récolte le jus.
D'accord.
Qui est très vert. Alors après, si je ne mets pas de gants, j'ai les mains extrêmement vertes. Mais ça disparaît assez vite. Et puis, j'utilise ce jus, en fait, voilà. pour la chlorophylle. Quoi,
intéressant.
Ouais.
C'est presque de la chimie. En tout cas, il y a tout un côté expérimental chez toi que je trouve génial. Quoi. Vraiment. Il y a les idées, ça vient, ça
il ouais,
y a beaucoup
pas.
D'imagination.
Ça manque pas.
Sylvie, ben voilà, pour revenir au départ, en fait, ton apprentissage de photographe, comment ça s'est passé ? Comment t'as...
Oh, ça s'est mal passé dès le départ, alors vraiment. Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait employé de commerce et puis en fait je m'ennuyais dans les bureaux et tout, franchement c'était pas ça. Et puis après on en a parlé avec Raphaël, mon mari, quoi, et puis Alain. Puis Alain me disait mais fais un apprentissage de photographe. Et puis je lui dis ouais mais bon, je voulais faire l'école, mais ce qu'il y a c'est que j'avais déjà je crois 21 ans et puis ça m'ennuyait d'attendre encore une année pour présenter les examens et tout. Donc je me suis dit c'est plus simple si je rentre directement en apprentissage. En plus de ça, j'ai déjà le permis de conduire, souvent les patrons ils aiment bien. Et puis je me suis présentée en fait chez un photographe qui s'appelait François Valeton. Et puis il m'a demandé ce que j'avais fait comme photo, mais en fait j'avais rien fait, quoi. Je veux dire, j'avais été en Afrique du Sud, ouais, faire des photos de lions. Et puis, j'avais pas grand-chose à montrer. Donc, Alain m'a dit, lui, il avait fait l'école des Beaux-Arts. Donc, il m'avait dit, mais je te passe 2-3 photos, je te dis ce qu'il faut dire. Et puis, vas-y. Puis voilà, puis je me suis lancée, mais je le ferai pas maintenant. Bon, bref, voilà, à l'époque, en tout cas, je me suis lancée vers François Valeton. Je lui ai demandé, je lui ai présenté mes photographies, quoi, les photographies de mon frère. Et puis, il m'a dit, mais c'est très bien, je vous prends. Puis. Donc j'étais engagée, mais bon, comme apprentie, hein, de toute façon, la première année, on fait les cafés. En plus de ça, ils faisaient toutes les photographies pour Veillon, le catalogue mm-hmm. Veillon, des habits. Donc franchement, c'était pas très fun. Hein. Et puis on travaillait très tard le soir, et puis j'avais plus le temps de faire la fête. On fait la nuit un petit peu. Et puis, on s'est un peu... Ouais, on s'entendait pas vraiment, quoi. Je veux dire, moi, je crois que j'étais un peu trop âgée pour aussi faire des cafés. Et puis, donc, on s'est quittés. Et puis, j'ai retrouvé un autre patron qui s'appelait Jacques Stressley, que j'ai adoré. Et mm-hmm. puis, là, on s'est vraiment bien entendu. Puis, lui, il faisait beaucoup plus de photographies différentes, quoi. Je veux dire, entre des paysages, la CGN, des photos de mode, des photos de... Ouais, voilà, c'était vraiment très sympa.
Donc là, c'est là où tu as vraiment appris.
Ouais,
et puis
ouais,
c'était...
Ouais, ouais. Voilà.
C'est là qui est...
Puis, vraiment, c'était bien. Mm-hmm. Et puis, j'ai toujours des contacts avec lui. Il est toujours photographe. Bon, j'arrive jamais à le faire monter à Sainte-Croix. Hein. C'est dingue, les gens de la Plaine. On n'arrive pas à les faire monter à Sainte-Croix. Je ne sais pas ce qu'on doit faire.
Bah, Sylvain, il monte de la Plaine. On a réussi avec Sylvain.
Oui, mais parce qu'il est d'ici.
Ouais, peut-être bien.
Mm-hmm.
Donc c'est avec ce photographe que tu as terminé ta formation, puis que
oui.
tu as acquis finalement à la
oui.
fin cette formation de photographe.
Voilà, et puis après une fois qu'on est photographe, ben y a personne qui veut nous engager bien sûr, parce que de toute façon ils n'arrivent pas déjà à tourner eux-mêmes, donc mm-hmm. soit on se met à son compte. Et puis j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des autres photographes style Patrick Luchère, mais qui n'est plus de ce monde non plus, qui était un photographe lausannois mais que j'aimais beaucoup en fait son style. Et puis, j'ai travaillé des fois avec Patrick, mais il ne me payait pas. Et puis après, ben, je suis partie aux États-Unis. Et puis c'est là que j'ai vécu pendant 9 mois. Je suis allée voir des photographes à San Francisco pour l'expliquer que voilà, que j'étais photographe, que j'avais envie de travailler avec eux. Puis ils m'ont dit, mais tu connais le métier, donc on va pas t'engager. Mm-hmm. Mets-toi à ton compte. Mais bon, je voulais pas me mettre à mon compte là-bas. Mais là-bas, j'ai travaillé. Alors ça, c'était super. J'ai travaillé, en fait, dans une boîte de catering, donc pour faire les repas et mm-hmm. tout. Et puis, en fait, on travaillait beaucoup pour le cinéma.
OK.
Donc, à San Francisco, j'ai travaillé dans cette boîte de catering. Puis, on allait sur les tournages de films.
Mm-hmm. OK.
Donc, ça, c'était super. Donc, j'ai rencontré 2-3 acteurs. Et puis...
du ouais, style
Ben, on était chez George Lucas, en fait. On allait dans son ranch.
Ah oui.
Juste ça. Mais parce qu'il avait un grand ranch jusqu'à côté de San Francisco. Puis y avait des plateaux là-bas. Et puis nous, on allait servir voilà, les repas.
Excellent.
Mais quand on parle photo, est-ce que toi, tu as du plaisir vraiment à prendre, j'ai envie de dire, n'importe où, n'importe quoi, en fonction de la situation photo, ou tu as vraiment... un ou deux domaines qui vraiment te parlent et auxquels tu as plus de plaisir à prendre des photos.
Oui, alors moi j'adore la nature, donc j'adore les arbres. J'adore les arbres, j'adore les fleurs, j'adore tout ce qui est plutôt un peu végétal.
D'où ça, la chlorophylle.
Exactement. Exactement.
Sylvie, est-ce qu'on passe un morceau de musique éventuellement?
Oui.
Donc, ton premier choix musical, c'est Amadou et Mariam avec Sénégal Fast Food. Donc, tu veux développer après pour quelle raison tu as choisi ce morceau?
Ben, parce que j'aime bien l'Afrique, en fait. En général, j'aime bien l'Afrique. Et puis c'était mon premier voyage, vraiment, mon premier voyage 21 ans en solo en Afrique du Sud.
Ok, d'accord.
Mais ils ne viennent pas d'Afrique du Sud, hein, ils viennent du Mali, eux.
Ok.
Je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à Moul Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il?
Thank you.
si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes dans l'émission La Vita è Bella. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et notre invitée de ce soir est Sylvie Margot Mettler, qui nous parle de son métier de photographe et bien d'autres choses et bien d'autres souvenirs également. Et puis, j'ai appris, comme ça, que tu avais eu une anecdote particulière concernant le passage de ton permis de conduire.
Ou l'apprentissage de la conduite.
J'en ai plusieurs, hein, alors c'est sûr. Alors, le permis de conduire, ben c'est sûr que, voilà, 18 ans, hein, permis de conduire, parce que de toute façon, ça, il fallait l'avoir, surtout quand on habite à Sainte-Croix. Puis il n'y a pas trop de souvent de train et tout. Et puis, en plus de ça, mes parents, il s'avérait qu'ils avaient une coccinelle, et puis mon frère avait dessiné dessus.
Qu'est-ce qu'il avait dessiné dessus ?
La tête de Frank Zappa. Et puis Véronique Sanson d'à côté, et puis bref, il y en a eu plusieurs, hein, parce qu'il y a eu des accidents et tout, mais voilà, il n'arrêtait pas de les dessiner donc c'est vrai qu'elles étaient sympas, et puis ils nous prêtaient volontiers leur coccinelle, donc j'ai appris là-dessus, et puis avec mon frère, parce que comme il était 59, donc plus que 3 ans, il pouvait conduire avec moi, et puis... il me faisait des exercices extrêmement difficiles, c'est-à-dire que je devais descendre la côte sans freiner, il mettait la barre haut, mais n'empêche que j'adore conduire. Je pense que c'est grâce à lui que franchement, j'adore toujours conduire. Et puis voilà, je l'ai passé, mais c'est vrai que il me faisait des choses, ou bien des fois on roulait, on allait et puis tirer le frein à main, voilà. Tirer le frein à main quand il y avait un peu de glace ou de neige, et puis il fallait que je maîtrise.
Improbable comme lui.
Improbable comme lui, voilà, exactement. Quoi.
Et puis, est-ce que vous avez aussi été sur le parking ?
Oui, bien sûr, des planètes. Mais j'ai une autre anecdote encore presque sur le permis de conduire, bien que à quelque part. C'est quand on a habité avec Raphaël aux États-Unis, pour ouvrir un compte en banque aux États-Unis, il fallait le permis de conduire. Parce que le permis de conduire c'est un peu la carte d'identité. Voilà.
Okay.
Donc, on avait déjà notre permis international, mais aux États-Unis, il fallait qu'on repasse notre permis de conduire. Mais heureusement, c'est pas très très cher. Et puis, on arrive donc avec notre voiture de location, on passe la théorie que j'ai bien sûr loupée. Et puis Raphaël passait après moi, mais heureusement, il a aussi loupé, quoi. Donc, on était les deux. Et puis, on est reparti en voiture. Mais en fait, à un moment donné, l'examen, il n'était pas très très long. Mais il y a la personne qui me demande, il me dit, bon alors maintenant vous faites signe de la main. Mais là je l'ai regardé, je me suis dit signe de la main, franchement je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc j'étais au volant et puis j'ai fait avec mon bras une espèce de bonjour. Je me suis dit c'est peut-être ça, signe de la main. Et puis en fait, il m'a dit mais non, parce qu'en fait, en Californie, il faut bien quand même préciser qu'il fait très beau tout le temps. Donc, signe de la main, en fait, quand on a la main gauche en bas, c'est qu'on est arrêté. Si on la met, bien sûr, sur la gauche droite, c'est qu'on tourne à gauche. Et puis, si on la met en haut, un petit peu au-dessus de notre tête, c'est qu'on tourne à droite. Voilà, c'est ça les signes de la main.
Sérieux ?
Oui.
Particulier quand
même.
Oui,
c'est particulier.
Alors, c'est particulier comme les
athlétiques. Mais quand tu parles de coccinelle, moi ça me rappelle vraiment un bon souvenir aussi. Particulier avec mon père, j'ai aussi appris sur une coccinelle. Et on était beaucoup, et je pense que ceux qui nous écoutent et qui ont fait le permis aussi à cette époque-là, on allait sur les pistes de chars à Vugel.
Oui.
Alors, on avait peu de chance de rencontrer beaucoup d'autres voitures, mais ça reste des souvenirs sympas quand tu y penses maintenant, mais sur le moment, je me rappelle qu'il était aussi un moniteur assez sévère, c'était assez particulier. On n'est pas toujours rentré avec le sourire.
J'imagine.
Ou bien au Rocha aussi.
Oui, c'est clair, sur les pistes de chars, c'était vraiment des endroits où on pouvait aller. Ouais, on est beaucoup à l'avoir fait, je crois.
Alors, oui, ce que je garde de la coccinelle, c'est le bruit.
Oui, le bruit.
C'était quand même particulier.
Oui. L'hiver, ça allait partout. C'était des voitures
c'était des
qui étaient juste
bagnoles,
magnifiques.
Hein.
D'ailleurs, elles allaient bien dans la neige. Hein.
Oui, exactement. Elles sont très prisées encore maintenant. Et puis, notamment par rapport à des voitures de collection ou presque. Mais dans la neige, c'était vraiment très, très bon.
Exactement, ouais. C'est vrai.
Les amis, je crois que ça va être le moment des pubs. Et on se retrouve après. Avec grand plaisir.
Depuis 30 ans, l'entreprise Eric Rusticelli Menuiserie Charpente est à votre service. Nous sommes spécialisés dans la restauration de charpentes et la fabrication, pose de fenêtres, portes et meubles.
Nous vous offrons un large choix d'aménagement intérieur moderne. Un devis, un conseil, appelez-nous au 024 454 20 35. Retrouvez-nous sur notre site rusticelli.ch.
Pour les amateurs de viande sur ardoise, ou si vous préférez la bourguignonne, vous pouvez encore hésiter entre les croûtes au fromage ou celles aux champignons. Et si la viande de cerf vous tente, pour faire votre choix et découvrir les autres surprises du menu, passez au Mont des Cerfs du mercredi au samedi de 11h à 22h et les dimanches de 11h à 16h.
Faites la fête et rentrez en toute sécurité avec Travis.
La ligne Yverdon Sainte-Croix vous accompagne dans tous vos déplacements.
Notre personnel se tient également à votre disposition tous les jours à la gare de Sainte-Croix.
Parmi les services proposés, notre guichet s'occupe d'organiser vos voyages en Suisse et à l'étranger.
Vous pouvez également effectuer du change et déposer vos colis DHL.
Travis, transport et connect.
Joachim Junior, Gregor Hoffman est dans son premier rôle de composition. Steve Kundet, 4 fois plus de fun, 4 fois plus de rire, 4 fois plus de chmachmichis.
Moi c'est Suzanne.
De 16h à 18h, les 4 fantastiques.
Samedi soir, à partir de minuit, au centre sportif, l'iconique duo de DJ Calumni vient mettre le feu.
Voilà, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez actuellement, vous êtes dans l'émission La Vita est Bella, toujours entre 19h et 20h. Et nous sommes en compagnie ce soir de Sylvie Margot-Mettler, photographe de métier par passion, et aussi pleine de souvenirs et surtout aussi de voyages. Avons parlé un petit peu de voyage.
Oui, exactement.
Volontiers, Sylvie.
Alors, ben, comme je vous disais, là, mon premier, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson aussi. Mon premier voyage toute seule, en fait, c'était, j'avais 21 ans, je suis partie 3 mois en Afrique du Sud. Et puis, après, je suis revenue. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, ma sœur, à l'époque, était hôtesse de l'air. Et puis, c'était peut-être plus facile que maintenant, mais elle pouvait me prendre... au dernier moment, bien sûr, qu'il fallait être toujours assez disponible parce qu'on partait des fois dans les 24 heures. Mais il suffisait qu'il y ait une ou deux places dans l'avion. Et puis même des fois, juste la place, pas à côté du passager, pas à côté du pilote hein, quand même. la place à côté des toilettes, je dirais, mais qui était libre. Et puis voilà, donc je suis allée en Gambie avec elle, je suis allée en Égypte. On est allé une fois aussi aux Maldives. Non, c'est vrai que de ce côté-là, j'étais chanceuse. Elle m'a pris assez souvent. Je suis même avec une amie, parce qu'après, je connaissais un peu toutes ses copines et copains, pilotes et hôtesses de l'air. Donc, des fois, elle me proposait aussi. Donc, je suis allée aussi une fois au Kenya. Non, j'ai pas mal de la chance, c'est sûr, de ce côté-là. Et puis nous, effectivement, Raphaël faisant mon mari, donc le skateboard, donc lui, il allait beaucoup aux États-Unis. Puis des fois, je l'accompagnais. Et puis voilà, donc c'est vrai que j'ai pas mal bourlingué, quoi.
On dit que les voyages forment la jeunesse, mais toi, Sylvie, avec tous ces voyages, on en a parlé justement là avant l'émission, comment ça t'a enrichi ces voyages? Qu'est-ce que ça t'a apporté et, qu'est-ce que tu en as gardé aujourd'hui dans ta vie de femme aujourd'hui?
Je dirais que déjà à l'époque, il y avait un petit peu moins de touristes, mais, j'avais toujours mon appareil de photo, donc c'est vrai que j'ai photographié des arbres un peu partout dans le monde, des fleurs. Et puis maintenant, j'ai toujours envie de voyager, mais peut-être différemment, quoi. Peut-être rester un peu plus longtemps dans un endroit pour connaître un peu plus les gens, ou bien peut-être si on a sûrement envie de repartir là, peut-être 2 ou 3 mois, j'en sais rien, mais peut-être s'installer à un endroit et puis peut-être faire de la chlorophylle en Amérique du Sud, on dira.
Le voyage, il est addictif un peu quand on commence. Ceux qui aiment ça, ils ne peuvent pas s'arrêter.
Oui et non, parce qu'il y a des périodes où on a un petit peu moins voyagé, mais je pense que voyager, mais différemment. Voilà.
Bon, ça veut dire aussi que vos filles sont grandes, donc elles sont un petit peu en dehors du nid. Donc c'est aussi peut-être une autre façon de
voilà,
voyager.
Voilà, on n'a encore pas grands-parents. Mm-hmm. Hein, je leur mets de la pression là.
Mais non, c'est pas vrai. C'est joli, c'est peut-être un double message. On n'est encore pas grands-parents.
C'est bien de l'avoir dit parce qu'on peut nous écouter.
Je suis sûre qu'elle m'écoute, Julie. Et puis elle est là. Non, mais elle ne va pas la sortir celle-là.
Ah, c'est fait, Julie.
Oui, c'est fait.
Bon, on a aussi un petit clin d'œil peut-être pour Élise, qui est actuellement
à Los Angeles.
Voilà.
Ouais, et puis elle a eu son anniversaire samedi, donc on s'est parlé. Elle habite chez des copains, en fait, donc c'est ses parents adoptifs là-bas, qui sont super. Lui, il est anglais, elle est chilienne, et puis elle s'amuse bien. Et puis elle a trouvé un job parce qu'elle a fini donc enseignante pour la petite enfance. Pour les petits, quoi, pas la petite enfance, elle est enseignante, quoi, pour les petits. Et puis là-bas, elle a trouvé une place dans une garderie. Et puis elle me dit, ouais, je suis à Glendon Avenue. Puis je me suis dit, mais Glendon, ça me dit quelque chose. Puis en fait, elle a passé devant la maison où on habitait quand Julie est née. Et puis elle passe, elle travaille à 3 minutes de l'endroit, et puis tous les matins avec ses petits bouts là, elle fait une petite balade, et puis elle passe devant cette maison, puis elle m'a envoyé la photographie, puis elle m'a dit parce que je lui avais donné l'adresse, je lui ai dit si t'es dans cette rue, regarde là, le 2110, c'est où on habitait.
Et vos deux filles sont nées aux États-Unis?
Ouais, les deux sont nées aux États-Unis. D'abord, ben voilà, Julie, et puis au début, on est arrivé, j'étais enceinte, puis je me suis dit ouh là là, peut-être qu'ils ne veulent pas moi aux États-Unis, j'en sais rien, mais bon, voilà, j'ai accouché. Et puis là, je me suis dit, les douleurs, de toute façon, elles sont pareilles aux États-Unis qu'en Suisse.
Certainement.
Je ne savais pas qu'elles allaient devenir américaines, par contre. Alors, voilà. Après, la deuxième, oui, bien sûr, mais la première, j'étais un peu surprise qu'ils nous avaient donné les papiers pour faire les démarches et tout.
Mm-hmm. Bon, visiblement, c'est quelque chose qui rend service à Élise aujourd'hui, en tout cas.
Voilà. Après, donc, c'est sûr que si on avait dû choisir, parce que ça dépend en fait des pays. Il y a des pays où ils veulent pas les doubles nationalités. Mm-hmm. Hein, c'est sûr que bon, je vous dis franchement que je sais pas si les filles vont garder cette nationalité, mm-hmm, parce que avec celui qui est au pouvoir maintenant,
c'est un peu plus délicat.
C'est un peu plus délicat.
Absolument. Sylvie, pour revenir un petit peu dans l'ici et maintenant, il y a un projet que tu as avec Séverine Guessa.
Oui, oui.
Est-ce que tu veux en parler un petit peu?
Oui, alors Séverine, en fait, il y a une année, maintenant peut-être même 2 ans, mais je crois qu'elle m'avait dit, mais moi j'aimerais bien faire un peu d'écriture. Et puis est-ce qu'on n'essaye pas de se lancer dans un petit livre, les deux, où moi j'écris des textes et toi tu fais des photographies? Et puis je lui ai dit, franchement, ça tombait bien, c'était aussi la période où notre frère était parti, donc un petit peu voilà, un peu triste et tout. Puis je lui ai dit ok, volontiers, on essaye. Donc on a commencé déjà l'année passée. Puis là, ça arrive gentiment au bout. Donc, peut-être que cette année, il y aura 2 petits livres, mm-hmm, 2 ou 3, on ne sait encore pas, qui vont sortir format carte postale avec des petits textes et puis des photographies. Et le thème, c'était l'atelier, parce que j'avais pas mal de photographies déjà d'ateliers de mon père et de mon grand-père qui sont décolleteurs. Et puis, j'ai dû faire d'autres photographies dans le musée, mm-hmm, dans l'atelier du Dr Viss, voilà. Et puis le deuxième sujet, c'est sur les greniers. Donc, mmh, tout l'automne passé et tout cet hiver, j'ai pas mal passé de temps dans les greniers. Donc là, j'arrive au bout, je suis assez contente parce que c'est un peu poussiéreux quand même. Hein.
Et puis glacial peut-être aussi.
Oui, aussi.
Mais ne connaissons pas Séverine Guessa. Tu peux juste nous dire peut-être pour rappel ou pour moi qui ne la connais pas, qui elle est?
Oui, alors Séverine habite à Sainte-Croix. Elle est enseignante aussi. Je crois qu'elle enseigne l'allemand. Ouais, je crois bien, ou le français aussi, à Lausanne. Et puis, voilà, je la connais depuis très très longtemps. Elle est mariée avec Philippe Guessa, qui est architecte. Et puis, on se connaît depuis voilà, très longtemps. Puis, elle aime bien l'écriture. Mm-hmm. Elle a toujours bien aimé voilà, ça. Donc, elle m'a proposé ce petit projet. C'est sans prétention, hein, vraiment. Je veux dire, voilà, et puis on s'est lancé là-dedans. Donc on verra si...
Ce sera un petit peu sous forme de poésie, un peu, ou bien...
Oui, exactement, oui, hein, un petit, mm-hmm, peu poésie. Mm-hmm. Et puis, comme je vous dis, un petit format. Mm-hmm. Et puis, on ne va pas en faire beaucoup. On va voir.
Mais pourquoi les greniers?
Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas, finalement. Oh, ça m'aurait plus parlé la cave, mais elle grignait.
Oui, mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, la cave.
Alors ça, on ne sait pas, il y en a le premier.
Non, mais intéressant, oui. Je trouve que la démarche de ce projet est intéressante, mais oui. Pourquoi les grenier, alors pourquoi pas.
Ouais. Oui, pourquoi pas.
Exactement, voilà.
Excellente réponse.
C'est une réponse très féminine. Et pourquoi pas.
Et pourquoi pas.
Voilà. On passe au second morceau de musique qui est Earth, Wind and Fire, September.
Nous sommes dans la dernière partie de l'émission La Vita est Bella, jusqu'à 20h avec Sylvie Margot-Mettler. Et je crois bien, Sylvaine, qu'on va parler de son frère, le Gum.
Oui, absolument. Et puis peut-être juste avant, bien sûr, de pourquoi September ?
September, Earth, Wind and Fire, c'est un groupe de musique qu'on adore avec Raphaël. J'aime bien danser aussi. September, on a été le voir à Zurich quand on était tout jeune et tout. C'était super. Donc voilà.
Donc c'est un bon souvenir.
Oui, c'est un bon souvenir. Et puis voilà, j'aime toujours bien écouter Earth, Wind and Fire.
Merci Sylvie. Donc, allons-y pour cet hommage. Oui. C'est une sorte de petit hommage, mais quand même, je crois que ça vaut la peine.
Ça vaut la peine, oui. Vraiment. Pour Alain, le Gum, comme tout le monde le connaît bien.
Alors son surnom.
Oui, alors ce surnom, le Gum, Alain a fait donc l'école des beaux-arts. Et puis, il habitait à la rue de l'Industrie, en fait, avec François Junot, son pote, donc l'automatier, le casse. Et puis, il utilisait, je crois, beaucoup de gomme-laque. Et puis, en fait, c'est François qui l'a appelé légume. Et puis, ça lui est resté. Et puis après, ben, quand il y a eu l'histoire du Grand Raid, parce qu'après, il a fini l'école des Beaux-Arts,
oui.
Mes parents l'ont un peu obligé de faire HEP pour que si jamais, qu'il puisse au moins enseigner le dessin, la gravure et la sculpture. Je ne suis pas sûre des branches qu'il avait pris, mais voilà. Donc, il a fait l'HEP pour pouvoir enseigner. Puis, bien sûr qu'il a enseigné à des classes de filles, hein, parce qu'il faut quand même bien dire qu'Alain était beaucoup attiré par les filles. Bon, c'est peut-être avec ses deux sœurs. Il avait déjà l'habitude, mais voilà. Donc, il a enseigné filles à Lausanne. Et puis après, il s'est inscrit à cette émission de télévision, là, Le Grand Raid.
Ok, il reste un grand souvenir de télévision, en tout cas. On en parlait aussi avant, moi je me rappelle avoir regardé avec mes parents, d'avoir quelqu'un de la région, de connu, et puis qui était tellement imprévisible et improbable, c'est vrai, dans sa manière de fonctionner. Donc c'était un grand souvenir, et je pense que ceux qui ont un autre âge se rappellent très bien.
Oui, alors moi je me suis rappelé, alors bien sûr on en a parlé avec Sylvie, et puis après je me dis, mais j'étais quand même assez jeune à l'époque, et puis j'ai été bien sûr regarder sur le net les émissions, en tout cas où il y avait quelques passages de, où Alain était avec... Frédéric Beauchâté. Hein,
Alexandre.
Ah pardon, Alexandre.
On peut juste peut-être pour les jeunes générations leur expliquer ce que c'était en
fait,
comme émission.
Justement, donc, allons-y.
C'est vrai que ça durait 9 mois et puis il y avait 5 équipes francophones. Donc les Belges, les Monégasques, les Canadiens,
les Suisses et les Français.
Et les Français, voilà. Et puis tous partaient en voiture du même endroit.
C'était une Citroën, c'est ça, hein?
Et puis ils avaient des Citroën et puis ils descendaient jusque au bout de l'Afrique.
Et oui, puis, oui, effectivement, tout à fait.
Ouais. Voilà, ou bien je me trompe et tout. Bref, pendant 9 mois, après, ils changeaient de continent. Après, ils allaient en Chine, ils ont traversé une partie de la Chine. Et puis après, ils retournaient, on transportait les voitures. Et puis, elles arrivaient au nord du Canada. Et puis, ils descendaient jusqu'à Cap-Terre de Feu, quoi.
Oui, c'est ça.
C'était ça.
Oui, exactement. Il touchait une Citroën Visa, pour ceux qui se rappellent, c'est Citroën Visa. Et puis le but, effectivement, de l'émission, c'était de rallier les deux Finistères emblématiques, qui étaient le Cap de Bonne-Espérance à l'extrême sud de l'Afrique, et ils allaient jusqu'au Cap Horn à l'extrême sud de l'Amérique. Donc voilà, c'était vraiment un grand périple durant cette émission.
Et ils devaient faire des films toutes les semaines.
C'était toutes les semaines. Et puis chacun présentait son film. Il y avait un vote en direct.
C'est assez mythique. Oui. Et puis il n'y avait pas de direct. Hein, donc je veux dire, les films, donc... il n'y avait pas non plus, ils nous envoyaient des lettres, ils envoyaient des fax, mais je veux dire, on n'avait pas des téléphones portables, des choses comme ça pour communiquer aussi rapidement. Donc les émissions étaient, il y avait 3 semaines de différence en fait entre l'émission télévision qu'on voyait à la télévision et puis ce qu'il avait
la
déjà
réalisation,
fait.
Ouais.
Voilà, donc nous on était souvent... un petit peu, il nous écrivait des lettres parce qu'il avait besoin de musique, parce que mon frère il faisait beaucoup de clips en fait. Il adorait les clips et puis c'était imaginer un personnage dans cette émission où il s'appelait Rakam Légume et puis c'était les histoires, les aventures de Rakam Légume, donc on le retrouvait dans certains pays et puis il filmait puis en même temps il était l'acteur de ses films quoi. Et puis, comme il faisait aussi pas mal de films et de clips et tout, donc des fois, il nous demandait certaines chansons qu'il fallait qu'on lui envoie sur des cassettes et des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que l'anecdote, notre maman, elle savait un petit peu à l'avance, des fois, ce qui allait arriver dans les émissions. Dans les émissions, parce que des fois, il était allergique au jury. Donc, il venait à l'émission... avec des points roses partout sur le corps, comme quoi il disait qu'il avait attrapé une maladie du jury ou des choses comme ça. Et puis en fait, il y avait des personnes qui n'étaient pas très contentes parce qu'en fait, ils étaient assez... Je pense qu'on se souvient beaucoup d'eux, mais ils n'ont pas gagné la course.
Le grand raid,
ouais. Et puis elle avait des fois un petit peu honte. Elle se disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va d'accord nous faire? Donc voilà, donc des fois, elle longeait les murs.
Elle n'osait plus trop sortir, c'est ça?
C'est ça.
Oui, alors ça, c'est. Je crois que tout le monde se souvient d'Alain par ce biais-là. Hein. Et ensuite, il y a eu d'autres. Il avait d'autres casquettes, notamment, c'était quand même un cinéaste.
Voilà. photographe
particulier. Il a fait beaucoup de Super 8.
Oui, et toujours. Il a tout ça. Ça a toujours été, je pense, sa marque de fabrique, en fait, parce que même s'il faisait du 16 mm ou bien après de la vidéo comme ça, souvent il mettait quand même des petits morceaux, des petits passages en fait en Super 8, parce qu'en fait ça a une autre qualité. Et puis surtout, en fait, il pouvait aussi gratter sur la pellicule. Et puis, donc, il utilisait, donc je dis gratter, c'est parce qu'il arrivait à faire des effets spéciaux un peu sur le Super 8. Et puis, c'est vrai qu'il a souvent utilisé le film, en fait, même dans ses autres réalisations, quoi.
Il y a des films qui t'ont marqué, en particulier?
Ben, celui que je préfère, disons, voilà, mais c'est un documentaire, c'est qu'il a fait, je crois, en 90. Non, je ne veux pas me lancer là-dedans, je crois que je vais dire une ânerie. Donc non, plus tard, 2011, je crois, quelque chose comme ça. Je suis Femen, un documentaire sur les féministes ukrainiennes. Et puis il était parti d'abord pour un temps présent, avec Olivier Koller, son ami, journaliste. Et puis ils sont allés plusieurs fois pour faire un temps présent. Et puis ils sont allés, je sais pas. Et puis Alain, il est retourné en Ukraine. Bon, il me disait, il faut dire aussi que les femmes là-bas sont très belles. Donc, oui, mais ça ne dérangeait pas d'y aller.
Bien sûr.
Et puis il avait tellement d'images qu'à un moment donné, ils ont cherché un peu des fonds et puis ils ont monté ce film documentaire Je suis Femen, qui est très beau en fait. Je l'ai regardé encore dernièrement et tout. Il passe bien. Il passe bien. Alors, c'est un mouvement qui n'existe plus ou peu, parce qu'en fait, la protagoniste du film, en fait, c'est Oksana Shashko, mais elle s'est donné la mort en 2000, en 2018, en juillet 2018.
Ce film est hyper touchant, pour l'avoir vu, vraiment, c'est tout ce combat, tout cet investissement, tout cet engagement de ces femmes qui étaient absolument, qui n'avaient vraiment pas du tout, qui avaient froid nulle part, je le dirais comme ça, ni aux yeux ni le reste, franchement.
Oui.
Et puis c'est vrai que c'est très touchant, son parcours, d'arriver enfin à Paris, de pouvoir exposer. Et puis à un moment donné où il y a quelque chose qui vraiment s'effondre, et puis effectivement il n'y a plus d'autre choix que de se donner la mort quelque part.
Oui. Ouais, non, vraiment. Et puis Alain était très proche d'Oksana, donc depuis le départ, il nous avait dit « Ah, mais elles sont sympas, ces Femen ». Au début, il avait un peu de la peine parce qu'elle se disait « Bon, c'est qui ce gars, en plus de ça, qui vient nous filmer et tout ?» Puis des fois, il peut être un peu, pas voyeur, mais disons, il filme partout, il les suivait et tout. Mais il a très vite eu confiance, elles ont très vite eu confiance en lui. Parce qu'il est, je crois, lui-même, et puis il voyait bien qu'il n'y avait rien d'autre derrière, que je veux dire, qu'uniquement le fait de les filmer et tout, les suivre, et dénoncer quelque chose que lui aussi, en fait, à quelque part, il est un peu aussi féministe, je crois ce que le dire. Et puis, puis après, il m'a dit, il y en a une spécialement que j'aime bien, c'est Oksana, parce qu'en fait, elle est aussi artiste. Il m'a dit un peu comme moi, et puis elle a aussi un problème de langage, un petit peu. Donc ils étaient vraiment un peu comme frères et sœurs, je trouvais. Et puis, elle était beaucoup plus jeune, mais il l'a vraiment beaucoup filmée aussi, parce qu'elle s'occupait aussi tout de ce qui était, quand il y avait des manifestations, c'est elle qui faisait les masques ou les choses comme ça. Et puis après, elle a été expulsée en fait d'Ukraine. Et puis, au début, il lui avait demandé si elle ne voulait pas venir plutôt en Suisse, mais pour finir, elle s'est retrouvée en France. Puis, une fois qu'on dépose les papiers, on est obligé de rester dans un pays, quoi. Mais après, c'est sûr que...
Ouais, une sacrée histoire, une sacrée aventure. Est-ce qu'on a quand même une petite minute pour parler du train fantôme, quand même?
Ah, le train fantôme,
ouais.
Ah, c'est bientôt vendredi 13, Ça, c'est vendredi.
Voilà.
Bon, moi, je ne vais pas y aller. Je vais venir plutôt au carnaval. le vendredi 13, donc c'est le train fantôme qui appartenait à, pas seulement à mon frère, d'abord il y avait d'autres personnes qui étaient dans le train fantôme à la Chaux-de-Fonds. C'est une maison un petit peu, qui n'est pas abandonnée du tout, mais où il y a, je sais pas, 8000 cadres, beaucoup de femmes dans ces cadres, et puis il y a des pièces qui, où il y a des... Ouais, ça fait un peu un train fantôme, mais... il a toujours, voilà, il a toujours bien aimé un peu tout ce qui est un peu qui fait peur. Donc voilà, c'est ouvert le vendredi 13, donc voilà, si j'avais la chaux de fond.
C'est ce vendredi, ça tombe avec le carnaval. Ouais, donc ce sera
au mois
pour
de mars,
un...
Christine voilà. m'a dit justement, ma sœur m'a dit, c'est incroyable, il y en a deux l'un après l'autre. Voilà. Au mois de mars, il y en a un. Donc si jamais.
Donc ce sera l'occasion.
Oui.
Sylvie, je te remercie infiniment. Sylvain, je te laisse annoncer nos parrains, mais c'est oui, vrai qu'on doit clôturer notre émission.
Mais oui, merci beaucoup Sylvie pour cet échange.
Ben, merci de m'avoir invité.
On va poursuivre ce petit échange juste après l'émission, si tu as encore quelques minutes. Ben, j'avais encore une ou deux questions à te poser, bon, on le fera en dehors de l'émission. Avant de nous quitter ce soir, on remercie encore nos deux sponsors, la laiterie fromagerie de Baume, ainsi que Daystock Factory Outlet à Orbe, et puis on se revoit demain.
Et puis, par rapport au choix musical, le dernier, c'est Alain Bachung avec Immortel, et je crois que...
Ouais, je le dédie à toutes les personnes, en fait, qui ne sont pas immortelles.
Merci. Et tous ceux qui sont partis.
Exactement.
Et qu'on aime encore,
ouais,
toujours.
Qui sont toujours là, présents.
Et qui nous manquent.
Mais oui, ils nous manquent énormément.
Et puis on profite encore de remercier Thibaut et Sven pour la technique.
Oui, exactement.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cacher sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel,